On en est à notre 17e leçon sur notre série sur la théologie systématique. Nous allons voir aujourd'hui un attribut qu'on n'entend pas parler souvent, qui s'appelle la haine de Dieu. Alors, beaucoup nient que la haine de Dieu puisse être un attribut, quelque chose qui puisse être attribué à Dieu. Cependant, il faut regarder ce que les Saintes Écritures enseignent et non pas nous laisser dominer par notre raison. Première chose qu'il faut mentionner, la haine de Dieu, c'est que c'est un peu comme quand on a parlé de la colère de Dieu. C'est pas quelque chose qui se compare à la haine humaine, donc elle n'est pas une passion ni une émotion incontrôlée qui fait souffrir celui qui l'exerce. Alors celui qui se met en colère ou qui se met à haïr quelqu'un, bien souvent, plus souvent qu'autrement, ça le fait souffrir lui-même. Dans le cas de Dieu, la haine de Dieu, il faut la définir si on veut pas avoir une conception qui soit erronée de cet attribut de Dieu-là. Comme définition, on pourrait dire que c'est sa volonté de punir le péché et les pécheurs et l'exécution de ces choses-là. Donc, c'est vraiment la volonté de Dieu de punir le péché et les pécheurs et son exécution. Première question qu'on peut se poser, c'est Dieu est-il? Est-ce qu'il est? Il est. Quand on regarde le psaume 5, verset 5, ça nous dit « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Alors ici, on parle de personne, on ne parle pas de péché. On discutait un peu dimanche matin sur le fait que la colère de Dieu, et ça c'est exactement la même chose. Dieu hait aussi les personnes. Parce qu'il y en a qui disent Dieu haït seulement le péché, mais il aime le pécheur. C'est vrai qu'il y a de la vérité quand on dit ça, mais la Bible est claire ici. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Mais la haine telle qu'on vient de la définir, pas la haine qui ressemble à celle de l'homme. Dans Zacharie 8, verset 17, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. » Alors ici, c'est clair que dans le contexte, on regarde, c'est plus des choses que l'Éternel hait, qui sont des choses qui ont une relation avec le péché. Parce qu'il dit, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais. Donc ce sont des choses, mais qui ont des relations avec le péché. Psaume 45, verset 7. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Donc ici, ça nous dit que Dieu hait la méchanceté. Donc, il peut haïr des personnes, peut haïr des choses, peut haïr la méchanceté. Et sans doute qu'il y aurait d'autres choses à voir à l'intérieur de cette question-là. Deuxième point qu'on va regarder, c'est quoi Dieu est-il? Je pense qu'il y en a une qui n'est pas trop difficile à répondre. Dieu est le péché. Dieu est le péché parce que, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que c'est contraire à sa nature. Deuxième raison, c'est contraire à sa volonté. Et troisième raison, c'est contraire à sa loi. Tout péché est une abomination pour lui. Cependant, certains péchés sont particulièrement haïs de lui. Un exemple, l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, ça prend la place de Dieu dans nos vies. Et aujourd'hui, l'amour de l'argent et bien d'autres choses qui prennent la place de Dieu sont des actes d'idolâtrie. Deutéronome 16, verset 22, « Tu ne dresseras point des statues qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. » Autre chose que l'Éternel haït d'une manière particulière, le parjure. Zacharie 8, verset 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Et que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toute chose que je hais, dit l'Éternel. » Autre chose que l'Éternel haït d'une manière particulière, ce sont les actes d'adoration hypocrites. Dans Ésaïe 1, versets 13 à 15, le Seigneur dit « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme hait vos lunes, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Alors, je me souviens, j'étais dans une assemblée à Sherbrooke, et il y avait un gars qui avait lu ce passage-là dans Ésaïe, au début d'Ésaïe, où le Seigneur dit que, il dit cette chose-là, « J'ai en horreur vos assemblées. » Il dit « Le Seigneur a en horreur nos assemblées. » Je pense que là, il se trompait. C'est que ici, dans le contexte, il faut toujours regarder qu'est-ce que le Seigneur dit, dans quel contexte il le dit. Il le dit ici, au moment où les Juifs continuaient de faire des actes d'adoration extérieure alors que leur cœur était rempli de péché et leurs mains pleines de sang. Alors, ils étaient dans une vie de péché intense et, en même temps, ils allaient faire le petit geste d'adoration, entre guillemets. Mais je pense qu'on peut, si on regarde autour de nous aujourd'hui, on voit exactement la même chose. Des gens qui vont à messe, des gens qui vont à messe tous les dimanches. Puis quand tu regardes leur vie dans la semaine, c'est le désordre complet, c'est plein de péchés. Alors le Seigneur, il dit qu'il hait les actes d'adoration qui sont des actes d'adoration hypocrites. Ils veulent faire croire qu'ils croient en Dieu. Ils donnent des dons, ils se font poser avec des chèques en feuille de contreplaqué 4 par 8. On a donné, je ne sais pas, 2000 piastres, c'était l'affaire. Puis quand ils regardent vivre, ils vivent dans le désordre complet. Ce sont souvent des occasions de scandale. Le Seigneur, il dit, quand ils font ces gestes-là, qui ont l'air des gestes de générosité ou des gestes d'adoration qu'ils font dans les églises, le Seigneur haït ce péché-là plus que d'autres. Aussi, les péchés contre les deux tables de la loi. On sait que les 10 commandements, il y a 2 tables de la loi. Dans les 4 premières tables, dans les 4 premiers commandements, c'est-à-dire, il y avait les devoirs que l'homme a envers son Créateur, envers Dieu. Et les 6 autres étaient les commandements qui parlaient des devoirs qu'on a envers notre prochain, les autres hommes. Alors, c'est sûr que tous les péchés qui sont contre les 2 tables de la loi, ils sont extrêmement nombreux. Quand on fait une étude approfondie de la loi, j'avais déjà fait une étude d'Exode 20 sur le Décalogue, et quand on regarde, c'est court, c'est juste 10-15 versets, mais quand tu les étudies en profondeur, tu vois que, dans le fond, quand le Seigneur dit tu ne déroberas point, quand on se met à examiner toutes les formes de choses qu'une personne peut voler, il peut voler du temps, il peut voler... Et aujourd'hui, c'est tellement rendu commun de voler du temps à son employeur, de voler des stylos à son employeur, de voler... C'est que c'est rendu tellement répandu qu'il n'y a plus personne qui va faire même une observation, dire « T'emmènes ton stylo chez vous, ça ne t'appartient pas. Est-ce que tu as demandé la permission? » Toutes sortes de choses comme ça. Alors, on voit que aujourd'hui le péché est développé plus que jamais. Et les 2 tables de la loi, quand on se met, comme je viens de vous dire, à examiner chacun des 10 commandements et qu'on regarde toutes les formes que chacun des commandements, on voit qu'il y en a énormément et que le péché est très répandu. Autre chose que le Seigneur dit qu'il est, plus que d'une façon particulière, les œuvres des Nicolaïtes et sa doctrine. Apocalypse 2, versets 6 et verset 15. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. De même, toi aussi, tu as des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Alors ici, tu as les œuvres des Nicolaïtes et tu as la doctrine des Nicolaïtes. Quand on fouille un peu dans les dictionnaires pour savoir un peu qu'est-ce que c'était les Nicolaïtes, on pense que le mot Nicolaïte est composé de 2 éléments. Le mot Nico, qui veut dire conquérir, et le mot Laos, qui veut dire peuple. Donc, c'est vraiment la conquête du peuple. Certains y voient l'introduction du clergé hiérarchisé, tandis que d'autres croient qu'une secte enseignant que les chrétiens pouvaient participer à des actes immoraux comme les païens. Eux, ils appelaient ça la liberté de la chair. Donc, c'est fort probablement les deux, parce que ce qui est arrivé quand on parle de la Nicolaïte, c'est vraiment le peuple qui conquiert, c'est les dirigeants qui se laissent imposer leur doctrine par la base, plutôt que l'inverse. Plutôt que de prendre la parole et chercher à changer des choses dans la vie des gens, c'est que la doctrine des Nicolaïtes, c'est que tu écoutes ce que les gens disent et tu leur donnes ce qu'ils veulent. Alors, c'est vraiment le peuple qui domine, mais le peuple n'a pas toujours... souvent, il veut des choses qui vont à l'encontre de la parole. Et quand le Seigneur dit qu'il hait les œuvres des Nicolaïtes et leur doctrine, alors, que ça veut dire que ce soit le peuple qui impose leur volonté aux dirigeants religieux, ou que ça veut dire qu'il y a eu une secte dans le passé qui enseignait qu'on pouvait faire des actes immoraux comme les païens et qu'il n'y avait pas de problème. Mmh. Moi, je pense que ça peut même être les deux. Aujourd'hui, il y en a encore des personnes qui se disent chrétiens et qui vont dire, qui vont enseigner que le péché, les péchés sexuels, c'est pas bien, bien grave. Il y a même des dénominations qui vont prendre des homosexuels ou des lesbiennes pour devenir des dirigeants d'église et toutes sortes de choses semblables. Alors, c'est définitivement des péchés des Nicolaïtes. Pourquoi c'est des Nicolaïtes? Parce que les personnes qui viennent à la tête, c'est parce qu'il y a une demande du peuple. Et quand il y a une demande d'un groupe de personnes, il y a toujours quelqu'un pour y répondre. Mais ça ne veut pas dire que tu es biblique pour autant. Autre chose que le Seigneur déteste, haït, c'est la violence. Psaume 11, verset 5, « L'Éternel sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » Moi, je me souviens, j'ai travaillé dans le milieu pénitentiaire pendant 4 ans. J'ai connu des gens qui étaient très violents. Puis des fois, quand ils nous racontaient ce qu'ils avaient fait dans leur vie, mais ceux que j'ai connus sont tous morts sont tous morts violemment. J'en ai connu un personnellement, et il était très, très violent, d'une façon particulière quand il était sous l'effet de l'alcool. Et des fois, il racontait ce qu'il faisait, et les cheveux dressaient sur la tête, et il est mort dans une ruelle à Montréal, battu, et j'ai vu des photos de ça dans le journal, la face était tellement enflée qu'on c'était à peine qu'on pouvait le reconnaître. Le Seigneur dit que celui qui vit par l'épée va mourir par l'épée. Celui qui vit par la violence va finir par mourir violemment. Quand on regarde à la télévision, souvent les personnes qui sont dans la pègre ou sont dans la mafia ou des choses comme ça, pendant 10, 15 ou 20 ans, ils font assassiner tout le monde, ils font battre tout le monde, ils n'ont pas de problème. D'un coup, à un moment donné, paf, t'entends parler qu'il s'est ramassé, tué, jeté dans le fleuve. Il y en a eu un récemment, la semaine dernière, j'ai entendu parler de ça à Montréal. Il pensait qu'il était un des chefs de la PEC de Montréal, et il savait que c'était un homme, il était reconnu comme étant un homme très violent. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était lui-même victime de violence. On l'a tiré, on l'a jeté dans le fleuve. Les Hells Angels, c'est la même chose. Ils font... Les Hells Angels? Tirer, ben, c'est très violent, au contraire.
Si tu fais...
aussi, autre chose, le vol et la fraude. Ésaïe 61, verset 8, « Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. » Alors, tout ce qui s'appelle vol, sous quelque forme que ce soit, aujourd'hui, on a tendance à penser les petits larcins, les petites choses, que ce n'est pas des vols. C'est un vol. Quand on regarde... Il y aurait très, très long à dire aujourd'hui sur jusqu'à quel point les niveaux de tolérance au vol et à la malhonnêteté peuvent s'exprimer dans les milieux de travail. Et tout partout, les gens sont rendus très... on peut prendre du papier, on peut prendre des crayons, on peut prendre... Le monde se serve dans la propriété de soit de l'État ou soit des compagnies, comme si c'était à eux autres, puis amène ça chez eux. Dans le fond, si tu voles un stylo, puis le stylo vaut une pièce. Tu as volé une pièce, Et si au bout d'une année, tu as fait ça 15-20 fois, tu as volé 20 pièces. Mm-hmm. Si on te dirait que tu es un voleur, tu dirais, ben non, 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 je ne suis pas un voleur. Ben oui, tu es un voleur, tu as volé ce qui ne t'appartenait pas. Mm-hmm. Aussi, autre point qu'il faut considérer, c'est que les trois personnes de la Trinité haïssent le péché. Dieu le Père est le péché. Il l'a démontré en jugeant les anges déchus qui avaient péché, en jetant Adam et Ève en dehors du paradis, en provoquant le déluge sur un monde débordant de péché, en faisant pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorre, etc., etc., etc. Parce qu'on pourrait aller dans l'Ancien Testament et regarder. Quand le Seigneur dit « considérer la bonté et la sévérité de Dieu », quelqu'un qui ferait une étude juste sur les gestes de sévérité que le Seigneur a eu, on sera surpris de voir jusqu'à quel point il y en a. Il y en a énormément. Dieu le Fils aussi est le péché. Hébreux 1, versets 8 et 9. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Aussi dans le psaume 45, verset 7, « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Dieu le Saint-Esprit est le péché, Ésaïe 63, verset 10, « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi et il a combattu contre eux. » Alors, autant Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit haïssent le péché. Maintenant, question qu'on peut se poser, c'est qui Dieu est-il? La première, c'est sûrement les ouvriers d'iniquité. Il s'agit non pas des hommes en tant qu'hommes, mais de ceux qui sont des pécheurs actifs, ceux qui pêchent continuellement, constamment, et qui en deviennent en quelque sorte des commerçants. Jean 8, verset 34, « en vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » 1 Jean 3, verset 8 et 9, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ça, c'est un verset que certains ont mal compris parce que ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Ça ne dit pas qu'il ne fait pas de péché. Ça dit qu'il ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, ça s'adonner dedans, plonger dedans, se complaire dedans, et le pratiquer, on devient des ouvriers d'iniquité, comme le Seigneur l'a dit. Romains 2, versets 5 à 9. « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, et réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. » Alors, les ouvriers d'iniquité sont haïs par le Seigneur. Deuxième point, les non-élus. Les non-élus ont fait une différence entre les ouvriers d'iniquité. Romains 9, versets 11 à 13. « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Il ne s'agit pas d'une haine positive, mais bien l'exécution de sa volonté sous deux aspects. Le premier aspect, c'est de ne pas accorder et répandre sa grâce sur eux et de ne pas les élever à l'honneur et à la gloire, mais ça sans considération des péchés prévus. Le Seigneur n'a pas décidé qu'il accordait ou non le salut sur la base d'une personne faisait plus ou moins de péchés. Parce qu'on le sait, il y a des personnes qui ont reçu le salut qui étaient des très, très grands pécheurs. Puis il y a d'autres sur la terre qu'on pourrait considérer comme, si on les compare, on pourrait leur dire d'eux qui sont des petits pécheurs, si on les compare à certains grands, énormes pécheurs. Cependant, les petits pécheurs méritent l'enfer autant. Et quand le Seigneur n'accorde pas sa grâce à quelqu'un, c'est la manifestation de la haine de Dieu telle qu'elle est définie, qu'on a dit tantôt, sa volonté de punir le péché et les pécheurs et l'exécution de ça. Alors, on a parlé de deux aspects. L'aspect, c'est de ne pas accorder et répandre sa grâce, de ne pas les élever à l'honneur et à la gloire. Et deuxième aspect, leur infliger une punition en considération des péchés commis. Alors que quand les non-élus vont comparer devant l'Éternel, il va y avoir aucune forme de péché qui ne sera pas révélée publiquement devant tous. Les péchés qu'ils ont eus en pensée, comment le Seigneur va faire ça pour que tout le monde voit ce qu'ils ont pensé? Ça, je ne sais pas, mais il est sûrement capable de le faire. Les actions, que ce soit faites dans le secret ou pas dans le secret, les petites réunions des personnes de PEG, puis de mafia, puis tout ça qu'on n'a pas vu, mais qui se sont faites quand même, là où il a pris des décisions de faire du mal. Tout ça, ça va sortir publiquement. Les choses qui se sont faites dans des endroits fermés, secrets, tout ça. Et les paroles, les pensées, les paroles, les actions, et aussi les omissions. Et les péchés secrets. Quand on regarde l'ensemble de toutes ces choses-là, ça va peut-être révéler. Certains hommes ont eu des vies criminelles, des grands criminels, et ils se sont rendus souvent jusqu'à la fin de leur vie, et ils ne semblent pas avoir eu des jugements, mais il n'y a rien qu'ils ont fait qui était injuste, qui était véritablement, qui infligeait des souffrances aux autres, pour lesquels un jour ils ne paieront pas pleinement pour leurs choses. J'avoue que quand on regarde la situation aujourd'hui du point de vue politique ou du point de vue de certains commerçants qui ont le haut du pavé ou des industriels, si on savait tout partout où ce qu'ils ont reçu leur argent, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais, on va prendre un exemple. Disons quelqu'un qui aurait une grosse entreprise d'asphalte et qui a beaucoup de camions, beaucoup de rouleaux asphalte, puis des centaines, puis des fois des milliers d'employés, si on savait tous les gestes de fraude qu'il y a eu envers le gouvernement, alors souvent les gens vont les admirer parce qu'ils sont riches, vont les admirer parce qu'ils sont socialement bien vus, et ces choses-là. Cependant, Dieu a vu exactement toutes les fraudes, toutes les choses malhonnêtes qu'ils ont fait pour se hisser là. Et un jour, ils vont te juger pour ça. Proverbe 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. » Jude 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Quand on regarde des versets comme ça, ils sont d'une grande clarté. Et quand on regarde aussi le milieu chrétien, américain, nord-américain, européen, beaucoup de milieux chrétiens ont des chrétiens que le nom. Non des chrétiens que le nom. Les gens font exactement ce que ça dit ici. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. C'est-à-dire qu'ils vivent des vies dissolues, mais tout en gardant un aspect d'aller à l'église ou à la messe, de payer leur dîme, de paraître bien devant le monde. Puis, dans le fond, on sait qu'ils continuent à mener une vie de débauche, de malhonnêteté, de fraude et toutes ces choses-là. La Bible nous dit que ceux qui font ça, ils peuvent peut-être passer aux yeux des hommes, mais ça ne passera pas aux yeux de Dieu. Quand ils changent la grâce de Dieu en dissolution, ça dit que leur condamnation est écrite depuis longtemps. Puis le Seigneur les qualifie des impies. Ceux qui font ça, c'est des impies. Romains 9, verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alors sûrement que ce n'est pas une doctrine qui est populaire que de parler de la haine de Dieu, mais je pense qu'en en parlant, c'est nécessaire d'exprimer qu'elle ne ressemble pas à la haine des hommes et de la qualifier, c'est-à-dire de la définir correctement, comme on l'a dit tantôt. C'est vraiment la volonté de punir le péché et les pécheurs et l'exécution de ces choses-là. Maintenant, à partir des leçons qu'on a faites aujourd'hui, on n'étudie pas la théologie juste pour se remplir la tête, on étudie la théologie pour changer des choses dans nos vies. Donc, des applications. Quelles seraient les applications qu'on pourrait faire à partir de l'enseignement de ce soir? La première, je dirais que c'est « apprenons à accepter une conception biblique du Seigneur malgré notre compréhension imparfaite ». Il y a plein de choses qui sont enseignées dans les Écritures. La Trinité, l'élection, la prédestination. Et on pourrait allonger la liste des choses qui sont difficiles à comprendre et qu'il faut s'habituer à croire le Seigneur sur parole et ne pas toujours être en train de raisonner sur « ça n'a pas bien ben de bon sens ». Il faut prendre ce que le Seigneur dit et le croire par la foi. Même si ça pose des difficultés, on croit le Seigneur. Vous s'habituez à faire ça parce que la Bible comporte beaucoup de difficultés. Et si on se met à laisser passer la raison avant les Écritures et avant d'exercer notre foi, tôt ou tard, on va avoir des problèmes sérieux dans notre vie. Deuxièmement, ne nous faisons pas un Dieu sur mesure en écartant les aspects sévères de la personne de Dieu. La colère de Dieu. On a vu le dimanche dernier le courroux de Dieu, la haine de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. Plus on rentre dans ces doctrines-là, plus on se met à trembler et à craindre le Seigneur. Se faire un Dieu qui correspond à se faire un Dieu sur mesure, c'est souvent se dire « Ah ben Dieu est bon, c'est un gros Père Noël, peu importe le péché qu'on fait, il va toujours nous pardonner. » Justement, j'ai connu un curé à Sherbrooke qui était comme ça. Il disait au monde, « Dieu vous aime, tout le monde quand il rentrait. » Là, peu importe s'il savait, peu importe la vie qu'il savait que tu avais faite durant la semaine, c'était un accueil. Je ne pense pas que la Bible fonctionne comme ça. Et ça, c'est de faire des dieux qui sont distordus, des images qui sont fausses de Dieu et des visions qui sont déséquilibrées du Seigneur. C'est des choses qu'il faut absolument corriger, parce qu'à ce moment-là, on est loin d'apporter de la gloire au Seigneur avec des choses comme ça. Troisièmement, nous avons la responsabilité d'avoir une conception la plus haute possible de Dieu, de sa nature et de ses attributs. C'est définitivement le but de l'exercice qu'on est en train de faire. On a 17 leçons de faire, on va en avoir 150. Après avoir vu les 150 leçons, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut s'asseoir et dire « Maintenant, je sais tout sur le Seigneur. » C'est comme si tu avais lu une introduction d'un livre. Tu es loin de savoir tout et c'est aussi nécessaire de réviser ce que tu as vu d'une façon constante, de manière à garder une vision de Dieu qui est équilibrée, qui correspond à celle qui est décrite dans les Saintes Écritures. Sans ça, on se fait des caricatures de Dieu. Quatrièmement, nous avons le devoir d'enseigner correctement sur ce sujet, de corriger et de défendre la vérité. Ça fait penser, des fois, dans les milieux calvinistes américains, on dit qu'il y a certains pasteurs qui sont des « closet calvinistes ». Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a des gens qui ont des conceptions de la vérité, ils ont découvert la vérité, mais ils ne la partagent jamais. Il n'en parle jamais, et peu importe si quelqu'un dit une bêtise à l'Assemblée, il ne corrige jamais. Leur but, c'est qu'ils n'aiment pas faire de la vague, ils n'aiment pas créer des fois des controverses ou des choses semblables. Ça, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il y a des choses qui sont difficiles. Faire la discipline à quelqu'un, c'est difficile. Pourquoi dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne fait plus la discipline? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de perdre les membres, ils ont peur de perdre les dîmes, et là, ils laissent les choses aller. C'est une tolérance qui est incorrecte, qui est non biblique. Alors, on a la même chose face à l'enseignement de certains sujets qui sont plus ou moins populaires. Si on a des convictions qui sont fortes, il faut les transmettre aux autres, les enseigner, ne pas avoir peur de corriger quelqu'un qui va dire une bêtise et défendre toujours la vérité. Et cinquième application, avertissons les inconvertis de craindre Dieu par sa grâce et pour sa gloire. Amen.